Emmanuel Kant, Prolégomène à toute métaphysique future, première partie. Première partie, comment une mathématique pure est-elle possible? Chapitre 6. Il s'agit, ici, d'une grande et certaine connaissance, dont l'étendue est déjà étonnante aujourd'hui, qui promet une extension illimitée pour l'avenir, qui emporte avec elle une complète certitude apodictique, c'est-à-dire une nécessité absolue, qui ne repose en conséquence sur aucun principe expérimental, qui est par le fait un produit de la raison, mais qui n'en est pas moins absolument synthétique. Comment donc est-il possible à la raison humaine de réaliser tout à fait a priori une pareille connaissance? Cette faculté, qui ne se fonde pas sur l'expérience et ne peut y prendre un point d'appui, ne suppose-t-elle pas quelques connaissances fondamentales a priori, profondément cachées, mais qui pourraient se manifester par ses effets, si l'on en recherchait avec soin les premières opérations? Chapitre 7. Or, nous trouvons que toute connaissance mathématique a cela de propre qu'elle doit exposer ses notions tout d'abord en intuition, et même a priori, par conséquent en une intuition qui n'est pas empirique, mais pure, sans quoi elle ne peut faire un seul pas. Ses jugements sont donc toujours intuitifs, au lieu que la philosophie peut se contenter de jugements discursifs par simple notion, tout en expliquant ses doctrines apodictiques par une intuition, mais sans pouvoir jamais les en dériver. Cette observation sur la nature des mathématiques nous dirige déjà vers la première et suprême condition de leur possibilité, à savoir qu'elle doit avoir pour fondement quelque intuition pure, où elle puisse exposer toutes ses notions in concreto, et cependant a priori, ou, comme on dit, les construire. Note. Voir Critique, page 314. Fin de la note, retour au texte. Si nous pouvons découvrir cette intuition pure et la possibilité dont il s'agit, il sera facile de voir comment des propositions synthétiques a priori sont possibles dans la mathématique pure et comment par suite cette science elle-même est possible. En effet, de même que l'intuition empirique permet sans difficulté d'étendre synthétiquement dans l'expérience la notion que nous nous faisons d'un objet par de nouveaux prédicats que nous offre l'intuition même, l'intuition pure donnera la même facilité, avec cette différence marquée, cependant, que dans le dernier cas, le jugement synthétique a priori sera certain et apodictique, et que dans le premier, il sera certain a posteriori et empiriquement, parce que cette dernière espèce de jugement ne contient que ce qui se trouve dans l'intuition contingente empirique. Tandis que la première renferme ce qui doit nécessairement se trouver dans l'intuition pure, puisque, comme intuition a priori, elle est indissolublement liée à la notion avant toute expérience ou toute perception individuelle. Chapitre 8. Mais arrivé à ce point, la difficulté semble plutôt s'accroître que s'atténuer, car la question devient alors celle-ci. Comment est-il possible de percevoir quelque chose a priori? Une intuition est une représentation dépendant immédiatement de la présence de l'objet. Il semble donc impossible de percevoir originairement a priori, parce qu'alors l'intuition aurait lieu sans un objet présent auparavant, ni dans le moment actuel, et qu'elle serait, par là, impossible. Il est bien vrai qu'il y a des notions de telle nature que nous pouvons les avoir tout à fait a priori, sans que nous nous trouvions en rapport immédiat avec l'objet. Telles sont celles qui ne contiennent que la pensée d'un objet en général, par exemple, la notion de quantité, celle de cause, etc. Mais ces notions mêmes ont cependant besoin, pour qu'elles aient un sens, une signification, d'un certain usage in concreto, c'est-à-dire d'une application à quelque intuition qui nous donne son objet. Mais comment une intuition de l'objet peut-elle précéder l'objet même? Chapitre 9. Si notre intuition devait être de telle sorte qu'elle représentât des choses telles qu'elles sont en elles-mêmes, il n'y aurait aucune intuition a priori. Elles seraient toutes empiriques. Je ne puis en effet savoir ce qui est contenu dans l'objet même qu'autant qu'il m'est présent et donné. Sans doute, on ne comprend pas encore alors comment l'intuition d'une chose présente doit me la faire connaître telle qu'elle est en soi, puisque les propriétés de cette chose ne peuvent passer dans ma faculté représentative. Mais en supposant le fait possible, il n'y aurait cependant pas lieu à une intuition a priori, c'est-à-dire avant que l'objet me fût représenté, condition sans laquelle le rapport de ma représentation à l'objet est inconcevable, si ce n'est par inspiration. Il n'y a donc qu'une seule manière dont mon intuition puisse précéder la réalité de l'objet et se constituer comme connaissance a priori, c'est qu'elle ne contienne que la forme de la sensibilité qui précède dans mon sujet toutes les impressions réelles par lesquelles les objets peuvent m'affecter. Je puis en effet savoir a priori que des objets des sens ne sont perçus que suivant cette forme de la sensibilité, d'où il suit que des propositions qui concernent uniquement cette forme de l'intuition sensible sont possibles et valables à l'égard des objets des sens. Et à l'inverse, que des intuitions qui sont possibles a priori ne peuvent jamais concerner que des objets des sens. Chapitre 10. La forme de l'intuition sensible, et donc ce par quoi nous pouvons percevoir des choses a priori, ce par quoi seulement nous pouvons connaître les objets tels qu'ils peuvent nous apparaître à nos sens, non tels qu'ils peuvent être en soi. Et cette supposition est absolument nécessaire si l'on reconnaît la possibilité de propositions synthétiques a priori, et si elles sont réelles, sa possibilité doit être conçu et prédéterminé. Or, l'espace et le temps sont ces intuitions que la mathématique pure donne pour base à toutes ses connaissances et aux jugements qui s'offrent en même temps comme apodictiques et nécessaires. Car une mathématique doit d'abord présenter toutes ses notions en intuition et une mathématique pure doit les présenter en intuition pure, c'est-à-dire les construire, sans quoi, parce qu'elle ne peut procéder analytiquement ou par décomposition des notions, mais synthétiquement, sans quoi il lui est impossible de faire un pas tant qu'elle n'a pas une intuition pure, dans laquelle seule la matière des jugements synthétiques a priori peut être donnée. La géométrie a pour base l'intuition pure de l'espace. L'arithmétique réalise ces notions numériques même par une addition successive des unités dans le temps. La mécanique pure, surtout, ne peut établir ces notions de mouvement qu'à l'aide de la représentation du temps. Or, ces deux représentations ne sont que de simples intuitions. Car, si l'on fait abstraction des intuitions empiriques des corps et de leurs changements, mouvements, de tout ce qui est empirique, de tout ce qui appartient à la sensation, reste encore l'espace et le temps, qui sont, par conséquent, des intuitions pures, qui servent de fondement a priori à tout ce qui précède et dont on ne peut, par conséquent, jamais se défaire, mais qui, précisément, parce qu'elles sont des intuitions pures, a priori, prouvent qu'ils sont de simples formes de notre sensibilité, formes qui doivent précéder toute intuition empirique, c'est-à-dire la perception d'objets réels, et suivant lesquels des objets peuvent être connus a priori, mais seulement, bien entendu, comme ils nous apparaissent. Chapitre 11. La question de la présente section est donc résolue. Une mathématique pure, comme connaissance synthétique a priori, n'est donc possible qu'autant qu'elle ne s'occupe que de simples objets sensibles, à l'intuition empirique desquels une intuition pure, celle de l'espace et du temps, sert de fondement et même a priori, et peut par cette raison avoir cet usage parce qu'elle n'est que la simple forme de la sensibilité, forme antérieure à l'apparition des objets, puisqu'elle seule la rend réellement possible. Cependant, cette faculté de percevoir a priori ne concerne pas la matière du phénomène, c'est-à-dire ce qui est sensation en lui, car cette sensation est ce qu'il y a d'empirique. Elle ne concerne que la forme du phénomène, l'espace et le temps. Si l'on doutait le moins du monde que ces deux choses ne font pas partie des déterminations inhérentes aux choses en elles-mêmes, mais qu'elles ne sont que des déterminations inhérentes à leur rapport avec la sensibilité, je voudrais bien savoir comment il est possible, a priori, et par conséquent avant toute connaissance des choses, c'est-à-dire avant qu'elles nous soient données, de savoir ce que doit être leur intuition, ce qui est cependant le cas avec l'espace et le temps. Mais cela est parfaitement concevable si tous deux ne sont que des conditions formelle de notre sensibilité et que les objets n'aient qu'une valeur purement phénoménale. Car alors la forme du phénomène, c'est-à-dire l'intuition pure, peut être représentée absolument de nous-mêmes, c'est-à-dire a priori. Chapitre 12. Afin d'ajouter quelque chose qui serve à expliquer et à confirmer ce qui vient d'être dit, on peut considérer seulement le procédé habituel et absolument nécessaire des géomètres. Toutes les preuves de l'égalité absolue de deux figures données, quand l'une d'elles coïncide de tout point avec l'autre, reviennent en définitive à ce qu'elles se superposent l'une à l'autre. Ce qui n'est évidemment qu'une proposition synthétique reposant sur l'intuition immédiate, et cette intuition doit être donnée purement et a priori. Autrement, la proposition ne pourrait pas valoir comme apodictiquement certaine. Elle n'aurait qu'une certitude empirique. Elle signifierait seulement qu'on a toujours remarqué qu'il en était ainsi et n'aurait de valeur que dans la mesure de notre perception. Que l'espace absolu, qui ne limite pas lui-même un autre espace, est trois dimensions, et que l'espace en général ne puisse pas non plus en avoir davantage, c'est ce qui est établi par la proposition que trois droites seulement peuvent se couper rectangulairement en un seul point. Mais cette proposition ne peut pas se démontrer par notion. Elle porte immédiatement sur une intuition, et même sur une intuition pure, a priori, parce qu'elle est apodictiquement certaine. Si l'on peut demander qu'une ligne soit tirée à l'indéfini, ou qu'une série de changements, par exemple des espaces parcourus par un mouvement, soit continuée à l'indéfini, c'est qu'on suppose une représentation de l'espace et du temps qui peut tenir uniquement à l'intuition, à savoir, en tant qu'elle n'est en soi limitée par rien, car elle ne pourrait jamais être déduite de notions. Des intuitions pures, a priori, servent néanmoins de fondement réel à la mathématique. Elles en rendent les propositions synthétiques et apodictiquement valable. Par là s'explique notre déduction transcendantale des notions dans l'espace et le temps, et du même coup, la possibilité d'une mathématique pure, qui, sans une déduction de cette sorte, et sans la supposition, ouverture de guillemets, que tout ce qui peut s'offrir à nos sens, aux externes dans l'espace, à l'interne dans le temps, n'est perçu par nous que comme il nous apparaît, non comme il est en soi. Fermeture de guillemets. Pourrait être accordé sans doute, mais point perçu.